Ok, merci beaucoup. Donc, merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Donc, c'est une question effectivement extrêmement importante. Le problème de l'environnement chimique est un problème très pratique, comme on le verra dans cette journée. C'est aussi un problème clinique et médical. C'est aussi un problème de recherche, et même de la recherche la plus fondamentale jusqu'à la recherche appliquée et clinique. Et c'est justement l'interaction entre ces différents niveaux qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. D'ailleurs, dans le domaine de la recherche, les alliances de la recherche sont chargées de préparer un plan, dans un programme dans ce cadre-là sur la santé environnement. Et donc ce plan arrivera bientôt et ils le feront en interaction avec les autres plans dont on entendra parler aujourd'hui, plan obésité, plan nutrition, et d'ailleurs par ailleurs plan cancer, etc. Donc la première partie, c'est cette première session, c'est donc une revue de ce qu'on sait dans le domaine des maladies métaboliques. Parce qu'avant de parler d'environnement chimique et de perturbateurs endocriniens, il faut placer tout ça dans un contexte. On sait déjà pas mal de choses, hein, sur l'obésité, sur la nutrition et sur les maladies métaboliques. Et l'intérêt, c'est de pouvoir intégrer les connaissances qu'on commence à avoir dans le domaine des perturbateurs endocriniens et d'autres contaminants chimiques dans ce cadre déjà, dans ce corpus de connaissances qui est déjà assez important. Il ne s'agit pas d'isoler les perturbateurs ou les contaminants chimiques de ce qu'on sait par ailleurs. Ça rentre dans un cadre bien, bien défini. Et donc, l'idée était de commencer par une session où on va présenter ces maladies métaboliques, l'obésité, les complications de l'obésité et les problèmes nutritionnels. Et Arnaud, tu es prêt pratiquement? Bon, d'accord, je vais arrêter. Donc, on va commencer par Arnaud Badevant, qui est responsable du pôle endocrinologie, diabétologie, nutrition et prévention à la Pitié-Salpêtrière, qui va placer donc le contexte obésité, environnement, comportement et biologie, et donc 20 minutes.
Bonjour, merci de votre invitation. Je vais mettre en place la question de l'obésité en vous montrant un peu comment on... En tant que spécialiste de l'obésité, on voit la question. Je commencerai par quelques informations que certains d'entre vous ont, mais que l'on doit partager a priori, sur ce qu'on sait de l'obésité à l'heure actuelle. Donc, je vous rappelle que l'obésité, c'est une inflation de la masse grasse qui est à gauche, en haut à gauche. C'est une inflation des cellules, soit en volume, soit en nombre, des cellules qui sont sous la peau particulièrement et qui... contiennent du gras. Et c'est une maladie qui a une situation qui a un impact considérable en termes de santé publique, on y reviendra, mais parce que ça augmente la fréquence d'un certain nombre de pathologies. Classiquement, on dit le diabète, l'hypertension, etc. Mais au fur et à mesure que les choses avancent en épidémiologie, on s'aperçoit que ça a un impact aussi sur des situations qui peuvent concerner le débat aujourd'hui, en particulier les cancers, un certain nombre de cancer. Et tout ça se traduit par un impact médico-économique important, puisqu'on estime que les dépenses de santé des personnes obèses par rapport aux non-obèses est 30% supérieure, principalement liées aux affections de longue durée, dont le diabète. Sur le plan épidémiologique, on constate que c'est une situation qui est liée à la transition économique, et qui a ce qu'on appelle un développement épidémique, c'est-à-dire qu'elle a cessé d'être nord-américaine pour toucher l'ensemble du monde. Sur cette diapo, j'ai fait une petite erreur, en haut à gauche, c'est 1980 et 2008. Donc vous avez l'évolution des prévalences de l'obésité, je suis désolé, j'ai retrouvé la flèche, non. Dans différents pays, les deux petit triangle du bas, c'est en Europe. Actuellement, vous voyez qu'en 1980, l'obésité était autour de 10%. Elle est maintenant autour de 15-20% en Europe. Mais regardez tout en haut, c'est l'Amérique centrale. Vous voyez qu'en 30 ans, la fréquence de l'obésité est passée de 10% à 30%. Et si vous ne pouvez pas voir, parce que ce n'est pas assez détaillé, mais la liste des pays, vous constaterez que ça a cessé d'être une maladie nord-américaine, et le pays qui actuellement connaît la plus grande augmentation de prévalence, c'est le Mexique, et les pays de BRIC, Brésil, Inde, Chine, sauf la Russie. Très brièvement, sur le plan épidémiologie, en Europe, Vous voyez l'évolution entre 80 et 2012 de la prévalence de l'obésité. Je pense que j'ai pas les moyens de vous le montrer, mais vous voyez le petit drapeau français là-bas à droite. C'est la deuxième courbe en partant du bas. Et vous voyez que la situation française est quand même relativement favorable par rapport à la situation britannique ou à la situation des États-Unis d'Amérique. La fréquence d'obésité actuellement en France est de 15%. Elle est de 25-30% en Angleterre et en... Si on regarde la situation française plus en détail, il y a actuellement 15% d'obésité. Mais ce qui frappe dans l'évolution que nous suivons depuis une quinzaine d'années, c'est que les formes les plus graves, et singulièrement les formes les plus graves chez la femme, augmentent de façon très préoccupante. Et le deuxième point qui est en bas à droite, c'est illisible, mais je vais vous résumer la diapositive, c'est le gradient social. Il y a actuellement une prévalence d'environ 5 à 7% dans les foyers qui gagnent plus de 4 000 euros, qui disposent de 4 000 euros, et elle est de 25% dans les foyers qui disposent de moins de 1 000 euros. Donc le gradient social est considérable, ça s'observe dans tous les pays. Alors, l'obésité est une situation dont on peut dire que c'est une situation complexe et hétérogène, à la fois dans ses déterminants, ses conséquences et ses présentations cliniques, et c'est une situation évolutive, et c'est ça dont je voudrais vous parler. Lorsqu'on regarde les déterminants, j'espère que vous ne comprenez rien à cette diapo, c'est fait pour. C'est le résumé par les Britanniques, qui ont beaucoup d'esprit et une certaine acuité, des déterminants de l'obésité. Alors, vaguement au milieu, vous voyez un truc orange ou marron. C'est ce qu'on appelle la balance... Ah, merci, c'est sympa. La balance énergétique, c'est ici. C'est-à-dire les entrées et les sorties d'énergie. Ce qu'on mange et ce qu'on brûle, pour faire simple. Et autour, c'est tous les autres déterminants. Pour les résumer, il y a les déterminants biologiques, l'activité physique, la consommation, les facteurs psychologiques, la pression sociale, la production alimentaire et l'environnement. Ça, c'est la visualisation actuelle que nous avons des déterminants de l'obésité. Mais une autre chose, c'est que c'est un processus dynamique puisque c'est un processus de maladie chronique. Ce qui caractérise les maladies chroniques, c'est qu'elles s'aggravent avec le temps. Sinon, ça ne serait pas la maladie chronique. C'est une chose simple, mais qu'il faut comprendre pour comprendre les problèmes d'origine et de déterminants. Donc, on a une phase préclinique, c'est-à-dire une phase où rien n'est apparent, cliniquement ou même biologiquement, sauf à faire des examens qu'on ne peut pas faire chez l'homme, mais où interviennent des facteurs qui vont avoir un rôle déterminant, et notamment pendant la vie intra-utérine et pendant les premières années de la vie. Et ce sujet-là sera traité tout à l'heure par Claudine Julien. Et puis ensuite, on a une phase, là je prends l'obésité, une phase d'aggravation où au fond, les gens sont en très bonne santé. Et puis, la maladie s'installe avec ses complications, sa chronicité et handicap. Et le problème pour nous, scientifiques et cliniciens, c'est de savoir au fond pourquoi les choses s'aggravent et pourquoi il devient si difficile à un moment donné d'intervenir et pourquoi il devient de plus en plus difficile de perdre du poids. Au fond, la question clé, et je pense qu'elle est centrale dans la discussion qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'une maladie chronique liée au comportement et à l'environnement. Et ce que je voudrais vous montrer au cours de mon exposé, c'est comment la pression environnementale et comportementale, au fil du temps, se traduit par des anomalies biologiques qui vont entretenir la maladie, s'autonomiser et faire que la maladie devient chronique. C'est la même chose pour la bronchite ou pour d'autres facteurs. Donc vraiment, je pense que l'obésité, comme le diabète, j'ai pris le modèle de l'obésité, est vraiment le modèle des maladies chroniques qui combine l'espace des déterminants, et le temps, c'est-à-dire la dynamique du processus. Alors, pourquoi au fond le tissu graisseux augmente ? Le tissu graisseux, je vous l'ai montré initialement, c'est fait de petites cellules, comme ça. Ce qui se passe très schématiquement, c'est que au fil du temps, le premier événement dominant, c'est l'augmentation de la taille des cellules. C'est-à-dire sur l'effet de la déséquilibre de la balance énergétique, le fait qu'on consomme trop d'énergie et qu'on n'en dépense pas assez, il y a un stockage d'énergie dans ces cellules qui augmente de volume. pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas pouvoir m'étendre aujourd'hui, à partir d'un certain stade, pour continuer à prospérer, si j'ose dire, le tissu adipeux doit augmenter son nombre de cellules. C'est ce que nous, on appelle le passage de l'hypertrophie à l'hyperplasie. Et le problème, c'est que généralement, il est impossible de faire disparaître les cellules. Donc vous voyez que c'est un processus un peu diabolique. Alors pourquoi, comment ça se passe? C'est simplement, donc, première phase, vous avez un adipocyte qui augmente de volume, c'est le déséquilibre de la dépense énergétique. Et l'autre phase, c'est le recrutement de cellules. Et donc, ayez en tête ce mécanisme. Pour qu'un tissu graisseux augmente, il faut soit qu'il augmente son volume de cellules, soit qu'il augmente son nombre de cellules. Et donc, c'est les deux mécanismes qui vont nous intéresser vraiment grandement. Alors, prenons le premier mécanisme, c'est-à-dire le déséquilibre de la balance énergétique. On mange trop et on dépense pas assez. Alors, les déterminants, très brièvement, c'est évidemment, il y a les comportements individuels. Il y a ce qui revient, si j'ose dire, à l'individu lui-même. Ça peut être l'impulsivité alimentaire, la sensibilité aux stimuli alimentaires. J'espère que vous en avez, vous aussi. Je ne sais pas, moi, l'odeur du poulet, la religieuse, l'éclair au chocolat, pardon, dans une vitrine, etc. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Il y a des troubles du comportement alimentaire. Donc, simplement pour poser la question du comportement individuel, il y a aussi le temps écran dont on sait qu'il y a une relation directe entre la fréquence de l'obésité et le temps écran. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont liés à la, principalement au comportement individuel, mais aussi quand même déjà à l'environnement. Et puis, il y a ce qu'on appelle les effets de niche écologique, par exemple les habitudes familiales, les traditions culinaires, l'alimentation collective, l'effet géographie. Nous investissons, nous, actuellement beaucoup en recherche sur l'effet géographique, c'est-à-dire dans quel endroit se trouve l'individu et comment les caractéristiques de cet endroit déterminent sa santé. Et évidemment, le niveau économique qui est absolument crucial. Et puis, il y a les effets plus larges, environnementaux. Et je suis toujours dans le modèle, on mange trop et on ne dépense pas assez. Pour la dépense énergétique, il y a des phénomènes très subtil, mais bien sûr l'urbanisation, les transports, c'est-à-dire qu'on est dans une société de mobilité sédentaire, l'évolution des conditions de travail, la diminution du travail manuel, le temps d'écran, des choses comme le chauffage et les vêtements. C'est-à-dire, si votre maison est à 18 degrés ou à 21 degrés, vous ne faites pas la même dépense énergétique. Et quand vous avez mis votre doudoune ce matin, ben, vous avez protégé votre dépense énergétique et donc ça peut contribuer. Tout ça, ce sont des éléments subtils. Ce n'est pas des événements considérables chacun en soi, mais collectivement, ils sont importants. Il y a l'évolution du système alimentaire, je ne peux pas détailler, mais tout ce qui a caractérisé l'évolution du système alimentaire, de la production à la distribution, au stockage et à la disponibilité, influence considérablement le phénomène. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a trois exemples majeurs. C'est la densité calorique de l'alimentation, la taille des portions et les prix. La densité calorique, c'est par exemple, pour faire simple, c'est la différence entre l'eau et un soda. D'accord ? Pour le même volume, vous avez plus de calories. La taille des portions, je vais y revenir, et les prix. Voilà l'accroissement de la taille des portions de cheeseburger, c'est un aliment, et de frites aux États-Unis. Et un bagel, ça c'est déjà mieux. Donc on passe en 20 ans de 300 à 600 calories. Quand vous allez demander votre cheeseburger, vous ne demandez pas comme vous le faites pour vos carottes au marché, je voudrais 500 grammes de carottes. Vous prenez un cheeseburger. Vous n'êtes pas dans un rapport de choix. C'est quelque chose qui vous est offert en tant que tel. Donc vous voyez que si subrepticement en 20 ans on augmente la taille des portions, ça va avoir des conséquences importantes. Pour être plus sympathique avec vous, voilà le café croissant à Paris, 265 calories. Voici le café croissant à Paris, toujours chez, peu importe chez qui, 570 calories. Donc simplement pour vous montrer ce que c'est qu'un effet environnemental subtil. C'est pas rien de très énorme. Troisième point que je vous ai dit, c'est le prix. Le prix, c'est... Ah, il faut que je me flûte. Vous me donnerez cinq minutes. le prix est inversement proportionnel à la densité. Donc il y a un problème de budget. C'est-à-dire que les gens qui ont un faible budget alimentaire peuvent mécaniquement pas consommer une alimentation équilibrée. Pour l'instant, je me suis focalisé sur des choses très très connues. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut contribuer, il y a bien d'autres choses, au déséquilibre de la balance énergétique. Mais je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi ce qui peut contribuer, par exemple, au recrutement de cellules. Et on s'intéresse beaucoup actuellement aux déterminants non caloriques de l'obésité. C'est-à-dire des choses qui interviennent, mais indépendamment du bilan d'énergie. Autrement dit, vous mangez autant, mais ce sont des facteurs qui vont modifier soit le stockage, soit le développement des cellules, soit le contrôle central de votre alimentation. Parmi ces facteurs, qui sont des facteurs pour nous émergents dans la physiopathologie de l'obésité, il y a l'effet du stress, dont on a pu montrer expérimentalement chez l'animal qu'il modifie le nombre de cellules, indépendamment de la prise alimentaire, les facteurs de sommeil, les médicaments, c'est pas les drogues, c'est les médicaments, les agents bactériens, certains virus, et les polluants. Par exemple, les polluants peuvent intervenir sur l'accumulation de lipides dans les cellules. Ils peuvent intervenir au niveau central en modifiant l'activité des noyaux, en particulier les noyaux arqués, qui sont déterminants dans la prise alimentaire. Et ils peuvent aussi intervenir vraisemblablement pour certains sur le recrutement. Donc voilà un petit peu les choses. Il ne faut pas simplement avoir une vue comportementale individuelle, mais environnementale, et il faut avoir une vision qui n'est pas purement bilan énergétique, qui va au-delà du bilan d'énergie. Très rapidement, la question qu'on nous pose, c'est est-ce que c'est les modes de vie ou la génétique ? Désolé pour ceux qui connaissent, mais pour résumer les choses, si vous suralimentez des jeunes Canadiens pendant 3 mois avec 1000 calories par jour, par rapport à leurs besoins, certains prendront 4 kilos et d'autres prendront 14 kilos. Et en fait, dans cette étude, il y avait des jumeaux et les jumeaux prenaient le même poids. Donc en fait, c'est une génétique de prédisposition aux effets de l'environnement qui est en cause. Beaucoup de gènes ont été identifiés. Pour l'instant, ils représentent 2% de la variation génétique de l'obésité. Donc c'est une maladie polygénique. Quand vous voyez « j'ai découvert le gène de l'obésité » dans 20 minutes, vous jetez là. Donc il y a la génétique, et j'emprunte cette diapositive à Claudine Gilluin, et l'épigénétique, c'est ce qui se passe, quand je vous ai dit, dans les phases précliniques très précoces, et on vous en parlera tout à l'heure, Claudine vous en parlera. Donc quand on regarde, en résumé, c'est un effet dynamique avec le temps, avec une prédisposition génétique et une succession de facteurs qui sont comportementaux et environnementaux principalement. Alors la question, c'est pourquoi, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure, pourquoi ça devient chronique ? Bien, je vais vous le dire rapidement, c'est que simplement le tissu adipeux ici, c'est un tissu adipeux de base, au fur et à mesure que vous le surchargez, il s'altère. Je ne vais pas pouvoir rentrer en détail, mais vous voyez, ça c'est des cellules de l'inflammation. Le tissu adipeux devient inflammé et il devient fibrotique, pour les docteurs qui sont dans la salle, c'est-à-dire qu'il devient un peu scléreux. Il s'altère, vous voyez, enfin, peu importe, je n'ai pas le temps malheureusement. C'est passionnant, vous avez tort. Non seulement le tissu adipeux s'altère en périphérie, mais les systèmes de contrôle central au niveau du système nerveux central s'altèrent également sous l'effet de cette inflammation. De sorte que le dialogue entre le tissu adipeux et le cerveau est altéré. Et tout se passe comme si le cerveau réglait le poids à un niveau supérieur, durablement. C'est ça que et en plus, ça je passe là-dessus. Donc si vous voulez, vous comprenez qu'au fil du temps, ce qui était initialement comportemental et environnemental devient organique, c'est-à-dire une anomalie du tissu, et ça devient une maladie. Voilà. L'autre chose qui est apparue, je vais aller vite, c'est qu'il n'y a pas simplement l'inflation générale du tissu adipeux qui compte. Certaines anomalies de tissu adipeux localisées, par exemple le tissu adipeux qui est autour du cœur, sans augmenter le poids de l'individu, peuvent se mettre à produire des substances qui peuvent agir directement sur le cœur et créer de l'insuffisance cardiaque ou des troubles du rythme. Donc il n'y a pas simplement la quantité de tissu adipeux, mais certains tissus adipeux peuvent devenir pathologiques et avoir un effet local. Et évidemment, tout ça nous intéresse beaucoup. Donc, je pense que nous défendons l'idée depuis 10 ans que, au-delà de l'approche biomédicale qui est la nôtre et qu'il faut maintenir, que je vous ai décrit, il faut bien sûr avoir une approche contextuelle. Et quand vous regardez un événement clinique, en l'occurrence l'obésité, vous devez évidemment vous intéresser à ce qui crée le déséquilibre énergétique, les facteurs cellulaires, etc. Mais vous devez aller en amont sur les patterns comportementaux, sur les déterminants environnementaux et systémiques et ce qui les modère. Et donc c'est ça la chaîne d'événements qui doit être notre référence dans l'analyse des maladies chroniques liées au comportement et à l'environnement. Et vous voyez qu'on rentre dans une certaine complexité, complexité qui nous pose problème, parce que nous avons à gérer des informations biologiques, et actuellement les informations biologiques sont très très nombreuses, des informations comportementales et environnementales. Et la question de recherche, c'est comment on gère cette multitude d'informations pour la rendre cohérente, pertinente et lisible. Et c'est ça l'objet actuellement de la recherche sur les maladies chroniques. Et les nouvelles technologies de bioinformatique, évidemment, nous aident dans cette approche. Ça, c'est juste pour finir et pour provoquer la discussion. Le problème dans tout ça, dans ces maladies chroniques liées au comportement et à l'environnement, c'est qui est-ce qui a intérêt à ce que ça change et qui a une influence? Et ça, c'est un vrai sujet. C'est simplement de la provocation et elle n'est pas de moi. Donc ça m'a... Et puis les choses peuvent changer. Donc il y a des gens qui ont... Ah ben j'ai bien fait, je n'ai pas fait exprès, mais ils ne regardent pas, donc ça va. Mais j'avais mis les mutuelles là-haut. Donc, ministère de l'Environnement, oui, agriculture. L'agriculture a fait ça hein, depuis quelques années. Et puis il y a des gens qui sont moins intéressés. J'aurais pu mettre là-haut le ministère du Budget qui a fait une taxe sur le Coca-Cola et qui est une taxe fiscale, donc qui n'a aucun intérêt, aucune influence, mais qui a un intérêt pour le ministère du Budget. Et je pense que cette discussion, il faudra l'avoir. C'est une provocation, hein, ne vous énervez pas. Je pense que les deux dernières diapositives que je vous ai présentées, c'est ma conclusion. C'est-à-dire qu'il faut avoir une approche biomédicale et contextuelle intégrée, et c'est très compliqué. D'autant plus compliqué que je vous ai expliqué que les événements peuvent être très précoces et que quand on observe l'obésité en 2013, en fait, on enregistre des choses qui se sont passées il y a plusieurs années. Donc, c'est très compliqué sur le plan de la recherche. Et puis, il y a un problème d'engagement, de savoir comment on aborde maintenant la santé. Est-ce qu'on la segmente ou est-ce qu'on a une vision plus globale et intégrative ? Merci.